en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg depuis janvier 1995, Jean-Claude Juncker a été élu comme membre associé étranger à l'Académie des sciences morales et politiques en 2006, au fauteuil laissé vacant par le décès de Léopold Sédar Senghor, qui était aussi membre de l'Académie française. Il rejoint ainsi au sein de l'Académie des sciences morales et politiques par ancienneté d'élection l'archiduc Otto von Habsbourg, Karl Friedrich von Weizsäcker, Jean Starobinski, le roi Juan Carlos, Javier Pérez de Cuellar, Václav Havel, le cardinal Joseph Ratzinger, devenu depuis son élection le pape Benoît XVI, le prince Charles d'Angleterre, Roland Mortier et Ismail Kadare. Membre du Parti chrétien social sur le plan européen, le Premier ministre Jean-Claude Juncker a été l'un des principaux artisans du traité de Maastricht. Depuis le 1er janvier 2005, il assure la présidence de l'Eurogroupe. Le lundi 12 mars 2007, sous la coupole, pour cette séance exceptionnelle, étaient invités de nombreux représentants. Côté luxembourgeois, on remarque la présence de nombreux ministres, l'ensemble des députés européens du Grand-Duché, le président de la Chambre des députés, l'ancien Premier ministre Jacques Santer, le maréchal grand-ducal représentant le Grand-Duc. Côté français, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Thierry Breton, ainsi que Pascal Clément, garde des Sceaux et ministre de la Justice, étaient également invités d'anciens ministres comme Roselyne Bachelot, Catherine Lalumière, Hervé Guémard, Elisabeth Guigou et différentes personnalités de la société civile dont Alfred Grosser, Louis Schweitzer, François Chérec, Jacques Rigaud et côté européen enfin, étaient présents Jacques Delors comme ancien président de la Commission européenne et Jacques Barrot, actuel commissaire européen. Canal Académie vous propose d'entendre la retransmission de cette séance sous la coupole le lundi 12 mars 2007. La séance est introduite par Lucien Israël, le président de l'Académie des sciences morales et politiques. Suit ensuite le discours d'installation par Michel Albert, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Et enfin, vous pourrez entendre le discours de Jean-Claude Juncker faisant l'éloge de son prédécesseur, Léopold Sédar Senghor.
Je demande à monsieur le secrétaire perpétuel de bien vouloir faire entrer en séance monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui représente le gouvernement.
C'est fait.
Eh ben alors, merci. Quand le ministre est assis. Le ministre. Monsieur le ministre, je ne peux ouvrir la séance que lorsque le ministre est assis. La séance est ouverte. Je donne la parole à monsieur le secrétaire perpétuel.
Monsieur le Premier ministre, chers confrères, monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le commissaire européen, monsieur le maréchal de la Cour de Luxembourg, mesdames et messieurs les ministres du Grand-Duché de Luxembourg, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les professeurs, monsieur le chancelier, messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs. L'Institut de France et les 5 académies qui le composent sont placés sous la protection du président de la République. Monsieur le Président de la République avait prévu de participer à cette séance en raison des liens personnels qui l'unissent à vous, Monsieur le Premier ministre et chers confrères. Mais il en a été finalement empêché et il m'a fait demander de vous en exprimer tous ses regrets. L'Académie des sciences morales et politiques comporte 2 catégories de membres. Les membres de nationalité française, au nombre de 50, et les membres associés étrangers qui ne sont que 12. Ces derniers sont tous d'éminentes personnalités. C'est ainsi, monsieur le Premier ministre et chers confrères, que vous allez, sur le fauteuil laissé vacant par le président Léopold Sédar Senghor, siéger à l'Académie dans le même groupe que Sa Majesté le roi d'Espagne Juan Carlos, le président de la République tchèque Václav Havel, mais aussi le cardinal Ratzinger, qui, devenu le pape Benoît XVI, a tenu tout récemment encore à manifester son attachement à notre compagnie. Quant à vous, parmi tous vos titres à entrer à l'Académie, il y en a un qui nous rend aujourd'hui tout spécialement heureux de vous accueillir. Vous êtes luxembourgeois et le premier de vos compatriotes à siéger dans notre compagnie. Un jour, alors qu'on vous interrogeait sur la place des petits pays en regard de celle des grands pays dans l'Union européenne, vous avez répondu à l'imprudent auteur de cette impertinente question : il n'y a que deux grands pays en Europe, la Grande-Bretagne et le Grand-Duché. Voilà un argument imparable qui nous fait regretter encore davantage que l'Académie n'ait pas jusqu'à ce jour été plus ouverte à des personnalités luxembourgeoises. Certes, elle a décerné en 1988 son grand prix à Gaston Thorn, mais s'il n'y avait notre confrère Jules Hoffmann, actuel président de l'Académie des sciences, né à Erftonnach, vous pourriez vous sentir un peu seul à porter parmi nous les couleurs du Luxembourg. Il faut dire qu'entre le Grand-Duché et la France, disons la grande nation pour ne pas déchoir, l'histoire est pleine de contrastes. Le lieu où nous sommes, cette coupole du palais Mazarin, a été édifiée sous le règne de Louis XIV, dont l'actuel grand-duc du Luxembourg est le descendant direct, car son grand-père était un Bourbon-Parme. Un autre des illustres descendants du roi Soleil n'est autre que le roi Juan Carlos d'Espagne, déjà cité en sa qualité de membre associé étranger de notre Académie. Mais faut-il rappeler que ce même Louis XIV annexa le Luxembourg en 1684 et que le duché fit retour aux Habsbourg dès 1686. Un siècle plus tard, en 1795, l'année qui vit la fondation de l'Institut de France et de notre Académie, le Luxembourg fut annexé à la République française et devint, cette fois pour 20 ans, un département français, le département des forêts. Passons encore un siècle. Au lendemain de la Grande Guerre, le peuple luxembourgeois interrogé par référendum le 28 septembre 1919 vota à une majorité de 73% en faveur d'une union économique avec la France. Cette fois, c'est la France qui refusa l'union, non sans quelque condescendance. Mais elle contribuera 33 ans plus tard à faire de Luxembourg le siège de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est ainsi que la Gibraltar du Nord devint en 1952 la capitale de cette jeune Communauté européenne. Vous-même n'aviez que 2 ans lors de la signature le 25 mars 1957 du traité de Rome qui a institué la Communauté économique européenne, dite marché commun, dont nous allons célébrer le cinquantenaire dans quelques jours. C'est dire que vous êtes fort jeune parmi vos confrères. En vérité, le plus jeune d'entre eux, et de loin, c'est la conséquence d'une biographie extraordinairement riche et féconde que la tradition de notre compagnie me fait un heureux devoir de résumer en votre présence et même, paradoxe de la rhétorique, de faire en m'adressant à vous. Je commencerai toutefois par un motif d'étonnement qui se rapporte à vos propres déclarations. Vous aimez dire de vous-même « Je suis un Européen biologique ». Votre confrère et compatriote d'origine, le président de l'Académie des sciences, Jules Hoffmann, serait mieux à même que moi de définir ce que peut être un Européen biologique. Nos confrères de l'Académie française, quant à eux, pourraient préciser si la référence à la biologie est ici une métaphore, une hyperbole, voire un oxymore. Pour ma part, je crois seulement être en mesure de prouver que vous êtes un Européen historique, un Européen sociologique et surtout un Européen politique au sens le plus élevé du mot. J'évoquerai tout à l'heure de grands hommes politiques qui furent les pionniers de l'idée européenne, ceux qu'on appelle les pères de l'Europe, et qui vous ont tant marqué, mais ne convient-il pas, s'il faut parler d'un père, de parler d'abord du vôtre? Dans les discours que vous prononcez ou dans les entretiens que vous accordez à la presse, vous aimez parler de vos parents. Et comment pourrait-il en être autrement? À 18 ans, après l'invasion allemande, votre père est enrôlé de force dans la Wehrmacht et pour son premier voyage hors de sa région natale, il est envoyé sur le front russe. Vous ne manquez jamais de rappeler votre admiration pour la génération, celle de vos parents, qui, ayant subi la guerre, a ensuite fondé l'Europe unie. Après la libération, votre père est ouvrier dans la sidérurgie et militant au sein du syndicalisme chrétien. L'engagement chrétien pour la paix et l'engagement travailleur pour le progrès social, voilà un double héritage paternel auquel vous êtes toujours resté fidèle. De même, votre enfance dans le sud industriel du Luxembourg paraît vous avoir déjà orienté vers un destin européen. Dans cette région de forte immigration, vous êtes, tout jeune encore, impressionné par les difficultés des enfants italiens, fraîchement arrivés, pleurant, perdus dans une école dont ils ne comprennent pas la langue. Mais sans doute se rattrapaient-ils sur les terrains de football où s'affrontaient trois équipes, celle des Luxembourgeois, celle des Italiens et celle de tous les autres. L'Europe des peuples était déjà là, autour de vous, mais il restait à la doter d'institutions. Lors d'un entretien avec des élèves d'une école française, vous avez raconté qu'une année pour la Saint-Nicolas, vos deux grands-mères vous avaient offert chacune un train électrique. L'un était de fabrication française, l'autre allemande. Jamais vous n'avez pu les raccorder. Voilà une expérience propre à susciter une vocation précoce d'Européens convaincus. L'Europe des trains électriques n'était pas encore sur les rails, mais celle du charbon et de l'acier montrait la voie. Votre pays a toujours été au cœur de la construction européenne. Et vous-même aimez dire à vos compatriotes que rien de ce qui est européen ne doit nous être étranger. L'histoire de l'Europe se trouve ainsi entrelacée avec votre vie et votre carrière. Lorsque Robert Schuman a prononcé la fameuse déclaration du 9 mai 1950, qui fut l'acte fondateur de la construction européenne, le ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché était Joseph Bech, l'un des pères de l'Europe, qui a joué un grand rôle dans le rapprochement des relations personnelles entre Schuman et Adenauer. Joseph Bech a ensuite présidé en 1955 la conférence de Messine qui a débouché sur le traité de Rome. Mais les débuts de cette Europe organisée souhaitée par Schuman sont pour le moins contrastés. Si la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, est bien créée en 1951, la Communauté européenne de défense, la CED, quant à elle, échoue en 1954. L'Europe pourra-t-elle être politique ou devra-t-elle se contenter d'être économique ? Un demi-siècle plus tard, la construction européenne a beaucoup progressé, mais il faut reconnaître que la question centrale est demeurée la même. Pour vous, l'Europe de l'éducation fut d'emblée une réalité concrète, Vous faites vos études secondaires en Belgique à l'internat de Clairefontaine. Vous êtes reçu au baccalauréat à Luxembourg en 1974 et vous vous inscrivez alors en faculté de droit à Strasbourg. Strasbourg vous inspire. Je vous cite. Ville symbole de la réconciliation franco-allemande. Ville européenne par excellence. Carrefour de tant d'ambitions et de tant de visions européennes. Capitale de la Grande Europe, à ces formules, et surtout la dernière que je vous emprunte, les Français ne peuvent rester insensibles. Vous ne pouviez rêver un meilleur lieu pour votre apprentissage de la vie européenne. Sur la suggestion d'un professeur de droit international, vous allez suivre les travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et vous étudiez attentivement ses rapports. Vos efforts ne tardent pas à porter leurs fruits. En 1979, vous obtenez une maîtrise de droit à Strasbourg et vous êtes assermenté à Luxembourg comme avocat, profession que vous n'exercerez jamais, ou plutôt que vous n'avez jamais cessé d'exercer en plaidant inlassablement depuis un quart de siècle la cause de l'Europe unie. Car une porte vient de s'ouvrir devant vous. Dès 1979, vous entrez dans la carrière politique active à Luxembourg, où le Parti chrétien social vous offre un poste de secrétaire parlementaire. Vous y êtes accueilli par un autre père de l'Europe, le Premier ministre Pierre Werner, dont il convient ici de dire quelques mots. Pierre Werner a notamment présidé le Conseil des ministres qui a permis, en 1966, de mettre fin à la crise de la chaise vide grâce au compromis de Luxembourg. Mais il est aussi l'auteur du fameux rapport Werner de 1970, proposant un projet d'union économique et monétaire et qui contenait déjà en germe le traité de Maastricht, dont vous serez vous-même en 1991 l'un des négociateurs. En 1982, quelques jours avant votre 28e anniversaire, vous étiez entré au gouvernement comme secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale. À ce poste, vous travaillez sur des sujets que vous connaissez bien, auprès de Jacques Santer, alors ministre des Finances, qui mérite lui aussi d'être cité sur la lignée des plus hautes personnalités européennes de nationalité luxembourgeoise. Devenu président de la Commission en 1995, il a joué un rôle décisif pour obtenir l'accord entre la France et l'Allemagne au sujet de l'union économique et monétaire. Pour en revenir à vous-même, vous êtes promu ministre du Travail et ministre délégué au budget dès 1984. L'époque est douloureuse. La métallurgie luxembourgeoise dans laquelle vous êtes né et qui représente plus de la moitié des exportations du Grand-Duché est encore en quasi-faillite. Vous jouez dès lors un rôle majeur dans la conversion la plus spectaculaire peut-être de toute l'histoire économique. En effet, à partir de structures fondées sur une industrie lourde et peu compétitive, le Luxembourg s'est transformé rapidement en une économie tertiaire des plus modernes qui lui procure les revenus par habitant les plus élevés d'Europe. Cette conversion vous doit d'autant plus que vous êtes passé maître dans l'art des compromis entre le patronat et les syndicats. Y avait-il un meilleur apprentissage pour vos futures négociations européennes ? Celles-ci s'intensifient à partir de 1985, lorsque votre ami Jacques Delors devint président de la Commission, à laquelle il donna un nouvel élan dans la perspective du marché unique. Peu après, en 1989, vous étiez devenu le ministre des Finances, considéré d'emblée comme le dauphin du Premier ministre Jacques Santer. Cette année 1989 devait être pour vous-même, comme pour toute l'Europe, une année historique. Vous appartenez à cette génération née après la guerre, qui a grandi dans une Europe dont l'horizon à l'est était le rideau de fer. Après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, l'heure des retrouvailles allait sonner, la réunification de l'Allemagne et celle de l'Europe pouvait commencer, l'unité allemande et l'unité européenne sont deux faces d'une même médaille, disait à juste titre le chancelier Konrad Adenauer, auquel, par-delà le président Léopold Sédar Senghor, vous succédez aujourd'hui. En effet, Konrad Adenauer fut reçu ici même, en 1964, en présence du général de Gaulle. En mémoire de cet événement, nous décernons depuis 2 ans une grande médaille de l'amitié franco-allemande pour la construction européenne. Je remercie les 2 lauréats successifs, la Fondation Robert Schuman et la Foire de Francfort, de nous avoir apporté leur aide pour l'organisation de cette cérémonie. Pour vous, Monsieur le Premier ministre et chers confrères, l'unité allemande n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat des succès de la construction européenne et de l'attraction que la prospérité de l'Ouest exerçait sur les pénuries de l'Est. À cette leçon de l'histoire récente, vous en ajoutez une autre. Vous aimez raconter qu'un jour en 1997, au cours d'une réunion européenne, vous avez posé aux dirigeants des pays d'Europe centrale et orientale cette question. Où étiez-vous il y a 10 ans ? Leurs réponses furent édifiantes. Sur 10 présents, 7 étaient en prison. Vous ajoutez à cette anecdote le commentaire que voici à l'usage des dirigeants occidentaux. À l'époque, ces leaders de l'Est croyaient à la vocation européenne de leur pays, alors que nous, en Europe occidentale, nous étions fatigués. Eux tiraient leur force de la redécouverte de leur pays. Mais ils ont accepté de restreindre le noyau de leur souveraineté pour entrer dans l'Europe, qu'ils considéraient comme le meilleur rempart contre les drames qu'ils avaient vécus. Le 1er mai 2004, 15 ans après la chute du mur de Berlin, 10 nouveaux États entraient dans l'Union européenne. Yalta était enterré. C'était la victoire de l'Union européenne, désormais si bien dénommée. Et par une heureuse circonstance, c'est sous votre présidence, dans votre capitale de Luxembourg, que le traité d'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie a été signé le 25 avril 2005. Ce n'était que justice, car l'Europe dans laquelle l'Est et l'Ouest ont ainsi pu se retrouver, cette Europe, Monsieur le Premier ministre et chers confrères, vous doit beaucoup, même s'il vous est arrivé de regretter, je vous cite, que plus l'Europe s'élargit et plus les esprits se rétrécissent. Vous êtes, entre autres, l'un des principaux auteurs du traité de Maastricht en 1991. Vous aimez à rappeler combien, à cette époque, l'idée même d'une union monétaire paraissait lointaine, pour ne pas dire utopique. Vous en faites l'expérience singulière lors d'un voyage officiel à Washington en août 1995. Le président Clinton vous demande de lui parler un peu de l'Europe. Vous évoquez immédiatement le point essentiel à vos yeux, la perspective de la monnaie unique. Après 2 minutes, Clinton vous interrompt, gêné, incrédule, et vous dit « Non, non, je voulais que vous me parliez de la Turquie ». Pour lui, la monnaie unique n'existait pas et ne pouvait pas exister. Aujourd'hui, l'euro est une réalité parce que des hommes comme vous y ont cru, de la même manière que les pionniers de l'Union européenne avaient cru, il y a 1/2 siècle, à la pacification du continent. Bientôt, vous est donné l'opportunité d'inscrire vos pas sur les traces des pères de l'Europe. Le 20 janvier 1995, alors que Jacques Santerre a pris la présidence de la Commission européenne, vous êtes nommé à 40 ans Premier ministre. À la tête du gouvernement du Grand-Duché, vous conservez le portefeuille des finances et vous vous en justifiez ainsi. Je n'aime pas, dites-vous, perdre de temps à m'entretenir ou avoir de belles controverses avec mon ministre des Finances. Il faut dire qu'en matière de belles controverses, l'Europe vous comble. Vos talents de conciliateur vous conduisent même à servir de pont entre vos homologues allemands et français. Votre plus beau succès dans cette discipline où vous excellez est peut-être le sommet de Dublin en 1996, au cours duquel vous parvenez à rapprocher les positions franco-allemandes sur le pacte de stabilité. Après cette performance, votre image d'homme des missions impossibles est durablement établie. Belle image, au demeurant, que celle du Premier ministre d'un pays ayant jadis tant souffert des luttes entre la France et l'Allemagne, devenu le conseiller conjugal du couple franco-allemand. Mais l'intérêt supérieur de l'Europe l'imposait. Vous avez dit, le temps où la force motrice franco-allemande était suffisante pour faire démarrer le cortège est révolu, mais sans elle, le cortège fait du surplace. Il est facile alors de comprendre que vous ayez été pressenti en 2004 pour prendre la direction même du dit cortège, mais plutôt que d'accepter la présidence de la Commission européenne, vous avez annoncé votre intention de rester à la tête du gouvernement luxembourgeois en cas de victoire aux élections législatives. Cette décision est, à mon sens, bien révélatrice. Jamais vos convictions européennes n'ont entamé votre enracinement national. Dans cette double expérience réside votre sage compréhension de l'Europe, de son unité et de ses nations. J'aime, dites-vous, à être luxembourgeois et européen. Vous l'avez dit en recevant le prix Charlemagne en mars dernier. Ceux qui veulent voir les États-nations disparaître se trompent lourdement. L'Europe doit tenir compte du fait national. Les nations ne sont pas des inventions provisoires de l'histoire. Les citoyens européens ne veulent pas des États-Unis d'Europe. Mais ce n'est pas tout. Vous ajoutez aussitôt, l'Europe n'a pas toutes les réponses. Mais sans elle, les nations, les États-nations, ne pourraient en apporter pratiquement aucune. Il faut donc trouver le juste milieu entre le degré d'Europe dont ont besoin les États et les degrés d'État dont a besoin l'Europe. Équilibre d'autant moins confortable que l'Europe, vous le savez mieux que personne, peine à s'appuyer sur ses deux pieds, l'économique et le politique. Pour vous, l'Union européenne ne saurait être envisagée du seul point de vue économique. Le marché à lui seul ne crée pas de solidarité, ni entre les hommes, ni entre les peuples. Laisser les seules forces du marché régir l'essentiel serait non seulement une erreur, mais une faute à l'égard des pères fondateurs, dont, en pur produit du modèle rhénan, vous revendiquez à juste titre l'héritage. Dans leur esprit, faut-il le rappeler, la communauté européenne était une entreprise à visée politique, sociale et pas seulement économique. C'est dans cette perspective que s'explique votre position et votre action à la tête de l'Eurogroupe. Le traité de Maastricht n'avait prévu aucune institution propre à renforcer la coopération économique entre les États membres de la nouvelle zone euro. C'est seulement en 1997, au Conseil européen de Luxembourg, donc sous votre présidence, Monsieur le Premier ministre, que fut décidée la création de l'Eurogroupe c'est-à-dire la réunion informelle des ministres des Finances des pays membres de la zone euro, en vue d'assurer une concertation entre eux, notamment en matière de conjoncture, de dialogue avec la Banque Centrale Européenne et de relations extérieures. Mieux, en septembre 2004, les ministres des Finances ont décidé de mettre fin à la règle de la rotation semestrielle, de la rotation tous les 6 mois de leur présidence, pour adopter le principe d'une présidence stable de l'Eurogroupe pour une période de 2 ans, ce qui constitue, me semble-t-il, une décision sans précédent. Aussitôt après, c'est vous qu'ils ont choisi pour leur premier président, et vous avez si bien réussi dans cette fonction que d'un commun accord, vos 12 collègues viennent de vous renouveler pour 2 ans encore, ce qui constitue, a fortiori, une autre décision sans précédent. À ce point de mon propos, permettez-moi, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, de m'interrompre un instant pour vous prier de m'excuser. En effet, appartenant vous-même à l'Eurogroupe, vous êtes 1000 fois plus compétent que moi pour en parler, mais comme vous le savez, les règles de la coupole veulent qu'en dehors des membres de l'Institut, seul le président de la République puisse y prendre la parole. Vous voici donc réduit au silence. Monsieur le Premier ministre et chers confrères, pendant votre premier mandat et votre présidence du Conseil de l'Union européenne, au premier semestre 2005, le non français au référendum du 29 mai sur le projet de traité constitutionnel, suivi du nez néerlandais, a été pour vous une sévère épreuve. Mais vous avez relevé le défi en vous engageant à démissionner si vos compatriotes, eux aussi, votaient non. Vous l'avez fait dans les termes suivants qui sont bien dans votre style. En cas de non, ce n'est pas au peuple de partir, c'est à moi de m'en aller. Et le 10 juillet, vous avez gagné votre référendum par 56% de oui. N'empêche que pour vous, l'Europe est en crise, parce que les opinions publiques se divisent entre une moitié qui réclame plus d'Europe et une autre moitié qui en veut moins. Selon vous, l'Europe est en crise aussi parce que nous parlons mal de l'Europe, parce que les dirigeants décrivent les négociations européennes non comme la recherche d'un consensus, mais comme un pugilat dont on sort gagnant ou perdant. L'Europe est en crise surtout parce qu'elle a désappris la fierté européenne, je vous cite, sur ce point qui vous tient à cœur. Nous avons fait la paix, le marché intérieur, la monnaie unique. Nous avons aboli les frontières et bâti la 2e puissance économique du monde et nous n'en sommes pas fiers, nous ne savons plus, nous ne voulons plus en être fiers. Le remède à vos yeux est d'abord de prendre de la distance au sens propre. Il faut sortir d'Europe. Allez la regarder telle qu'on la voit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique même. Là, des hommes nous regardent avec envie, des peuples qui peinent à tirer, comme nous avons su le faire, les leçons de leur histoire sanglante, nous observent en cherchant un modèle ou à tout le moins une référence. Je m'arrêterai sur cette vision d'espérance, même s'il faut aller la chercher hors d'Europe, car j'en viens à ma conclusion. Non toutefois sans vous remercier, à titre personnel, pour le généreux désintéressement avec lequel vous avez accepté de prendre en charge le CIF, le Centre international de formation européenne. Ma conclusion sera la simple constatation d'une sorte d'harmonie préétablie entre ce lieu et votre personnalité. Votre personnalité fait de vous, Monsieur le Premier ministre et chers confrères, à l'échelle internationale, déjà le plus expérimenté et encore le plus jeune champion des compromis créateurs d'entente entre les nations. C'est à ce titre, de créateur d'entente entre les nations, que vous êtes attendu confraternellement pour siéger en immortalité dans le haut lieu qui nous réunit. En effet, si vous voulez bien lever les yeux vers la frise de cette coupole, vous y lirez un verset du prophète Ézéchiel qui invite, je cite, à s'asseoir sous l'ombre d'un grand arbre au milieu des nations rassemblées.
Monsieur le Premier ministre, et désormais aussi cher confrère, je vous demande de bien vouloir gagner le pupitre où je vais vous rejoindre pour vous remettre la médaille, symbole de votre appartenance à notre compagnie. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.
Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, mon cher Thierry, merci d'être venu et merci de représenter le président de la République qui a eu l'amitié de me recevoir à vrai dire à déjeuner, avant la cérémonie de cet après-midi. Mesdames et messieurs les ministres, messieurs les premiers ministres, monsieur le président de la Chambre des députés luxembourgeoise, monsieur le maréchal de la Cour, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le commissaire, monsieur le président de l'Académie des sciences morales et politiques, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie, monsieur le chancelier de l'Institut de France, monsieur le chancelier honoraire, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs et pour beaucoup d'entre vous, mes chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion et surtout une grande joie, monsieur le président, que je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude devant le double honneur qui m'est choix aujourd'hui, l'honneur insigne d'appartenir désormais à cette vénérable institution et l'honneur d'y succéder un des hommes les plus éminents du XXe siècle. Tant d'honneur, monsieur le président, me confond et pour tout vous dire, m'inquiète quelque peu. Ai-je vraiment mérité? À vous de juger. Quelles étaient les raisons qui ont pu déterminer votre choix? Je les ignore. Pourrais-je soutenir l'inévitable comparaison avec mon prestigieux prédécesseur? Sans doute pas. Serais-je enfin, je me pose la question, à la mesure d'un exercice oratoire d'académicien dont je n'ai pas l'habitude, malgré le long chapelet de discours qui ont cadencé mon parcours politique, discours en règle générale spontané, est toujours trop improvisé. Aborder d'abord l'œuvre poétique, politique, philosophique de Léopold Sédar Senghor à partir de mon propre domaine de compétences peut sembler une gageure. Pourtant, à y regarder de près, il n'y a pas véritablement de divorce entre les objectifs de l'homme politique et les préoccupations de l'écrivain, du penseur, même si leurs moyens mis en œuvre divergent et doivent largement diverger. À l'occasion de l'installation de Léopold Sédar Senghor, le 16 décembre 1969, Monsieur Edmond Giscard d'Estaing, alors président de l'Académie des sciences morales et politiques, a défini ainsi le critère de nomination des membres étrangers associés. Notre Académie, dit-il, se sentent attirés par les hommes d'État qui ne sont pas exclusivement philosophes ou exclusivement hommes d'action, mais qui sont les deux à la fois. Donc, me semble-t-il, l'Académie choisit des hommes politiques qui se rapprochent de l'idéal platonicien du roi philosophe. même si à l'évidence je n'y atteins pas, je puis dire au moins que je partage cet idéal, mutatis mutandis, et que je suis convaincu que toute action politique doit procéder d'une réflexion sur la nature et la condition humaine, ainsi que sur les relations entre les hommes dans une société qui doit être libre et qui doit être juste. Quant au genre littéraire que je vais aborder, l'éloge, en l'occurrence d'une personne ô combien méritoire, il est des plus difficiles, car tout en nuance, en trait délicat, en équilibre fragile, il faut tenir le cap entre le panégyrique, destiné en principe au saint, et la part de chaque être que Friedrich Nietzsche appelle das Allzumenschliche, l'humain trop humain. Car il s'agit bien de faire l'éloge d'un être humain et non d'un dieu, comme dans le banquet de Platon. Encore que, à bien y regarder, Léopold Segar Senghor ait beaucoup de traits communs avec Eros, lui aussi philosophe, comme l'assure Diotime à Socrate, et passionné de savoir. Senghor l'a d'ailleurs évoqué dans un petit cycle de poèmes subtilement intitulé « Par delà d'Eros ». Et puis, de quel Senghor ferai-je l'éloge? Du poète? De l'homme devenu parole? Du poète tombé en politique, comme il se définissait lui-même, ou du grand intellectuel noir, humaniste, érudit incollable sur les auteurs grecs et latins, ou du brillant académicien, du visionnaire politique en avance sur son siècle, du père fondateur de la francophonie institutionnelle, ou de l'européen convaincu, penseur et protagoniste d'une culture universelle. J'essayerai, sans trop faillir à ma mission, de me limiter aux traits essentiels de cet être d'exception, au moment fort de ses vies parallèles. À n'en pas douter, l'enfance de Senghor est un de ces moments, et peut-être le plus déterminant. Léopold Sédar est né le 9 octobre 1906 à Joual, port sénégalais, situé au sud de Dakar. Né plutôt sous une bonne étoile, son père, un riche commerçant, notable et catholique, explique volontiers son nom de famille par une ascendance portugaise, senior, monsieur. Sa mère, d'origine peule, est musulmane. Nomen est omen. Son nom chrétien Léopold et son nom de famille Senghor semblent tracer d'avance la destinée future de Sédar, c'est-à-dire de celui qui n'a pas honte, de celui qu'on ne peut pas humilier. Pendant toute sa vie, Senghor gardera la nostalgie du royaume de l'enfance. « Je sais, écrit-il, le paradis perdu, mais je n'ai pas perdu souvenir du jardin d'enfance où fleurissent les oiseaux. » Léopold Sédar débute sa scolarité en 1913. Enfant précoce, à n'en pas douter, Léopold Sédar commence à découvrir la richesse fabuleuse de ses racines culturelles. En 1923, il est envoyé au Collège Séminaire Liberman de Dakar pour étudier le grec et le latin. Il s'y sent de plus en plus en rupture avec ceux qui veulent lui tracer une voie ecclésiastique qui n'est pas la sienne. Jugé trop frondeur par ses professeurs, il sera dirigé en 1926 vers l'enseignement laïque où il réussira brillamment son baccalauréat. Il obtiendra une bourse qui lui permettra de poursuivre ses études en France. Il débarque à Paris au mois d'octobre 1928 et s'inscrit en Sorbonne. Mais la fille aînée des rois de France ne sourit pas aux jeunes Sénégalais qui se sent désorienté. Il opte donc pour Hippocagne au lycée Louis le Grand pour préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il aura comme condisciple un certain Georges Pompidou qui l'introduit dans les milieux mondains. Il rencontre Picasso, Matisse, Josephine Baker. Pourtant, il est plus heureux dans sa chambre de la cité universitaire, en compagnie de Barès, Giraudot, Gide, Proust, Peggy, Monterland. À partir de 1931, dans le salon des sœurs Antillès Nadal, il fait connaissance de ses véritables frères intellectuels, les écrivains négro-antillais René Maran, Léon Gontran Damas, puis Aimé César. Également inscrit à Louis le Grand, ils formeront bientôt le quatuor des desperados de la pensée noire. Pourtant, le parcours de Senghor n'est pas sans embûches. L'année suivante, il échoue de peu au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Mais il obtient le diplôme d'études supérieures parce que pour son mémoire, l'exotisme chez Baudelaire. Il acquiert la nationalité française pour pouvoir préparer l'agrégation de grammaire à laquelle il échoue, pourtant en 1933. Ces deux échecs semblent étonnants, mais il faut les placer dans leur contexte. Le défi de Senghor était celui de tous les francophones qui entrent en concurrence avec la fine fleur de l'intelligence française. À talent égal, ils ne peuvent jamais tout à fait rivaliser avec ceux qui, comme le disait Chateaubriand, ont bu le français avec le lait maternel. Les luxembourgeois en savent quelque chose. Le cheminement intellectuel de Senghor est d'autant plus remarquable, puisque, si vous me permettez cette entorse à la chronologie, il aboutira le 29 mars 1984 à la consécration suprême de l'Académie française. J'ai lu avec beaucoup d'amusement le récit d'Alain Decaux concernant une joute homérique sous la coupole entre Jean Guiton et Senghor concernant l'étymologie d'un mot. Il s'agissait bien sûr d'une nuance infinitésimale et c'était qui pourrait citer de mémoire les meilleurs passages d'auteurs grecs en faveur de son interprétation. Après plusieurs passes d'armes, c'est Jean Guiton qui jette le punch. « Je rends les armes, dit-il, à M. Senghor. » Comme quoi, la langue grecque aura rétabli l'égalité des chances entre francophones et français. Tout en poursuivant ses études, Senghor élabore avec Damas et Césaire la vision d'un monde nouveau où la culture africaine aurait la place qui lui revient. En 1934, il fonde la revue contestataire « L'étudiant noir ». Après son service militaire, il est reçu à l'agrégation de grammaire en 1935 et sera nommé professeur au lycée Descartes à Tours. Il y fait l'expérience de l'ennui provincial, de la condescendance des provinciaux à l'endroit des Noirs. En 1936, il s'inscrit à la Azavio. Pourtant, il est en proie à la solitude et se remet au pouvoir analgésique de la poésie et note avec beaucoup de tristesse « Je suis la solitude des poteaux télégraphiques le long des routes désertes ». La guerre, elle, ne passera pas à côté du citoyen français Senghor. Affecté à un régiment d'infanterie coloniale, il est fait prisonnier au front Stalag. Dans sa cellule, il rédige un grand nombre de poèmes qui composeront plus tard Hostie Noire. Il lit Platon, il lit Pascal et découvre Goethe qui l'éblouit et lui fit sentir l'énorme abîme entre la culture allemande et le régime nazi. En 1942, il est libéré pour raison de santé et reprend ses cours au lycée. En 1945, Senghor sera élu député du Sénégal au Parlement français. Est-il déjà conscient qu'il entame sa destinée de poète tombé en politique? De toute façon, il sera élu tout au long de la 4e République. Et sa vie politique, désormais, sera inextricablement liée à sa vie privée et sa vie d'écrivain. En 1946, il contracte mariage une première fois, et en 1948, année du décès de sa mère, il démissionne de la Azavio pour créer, avec Mamadou Dia, le Bloc démocratique sénégalais et fonde le journal La Condition humaine. Il publie Ostinoir et surtout l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, parue aux presses universitaires françaises et précédée de la préface de Jean-Paul Sartre, Orphée noir, elle deviendra le cheval de Troie de la négritude. C'est la voix de Sartre qui impose définitivement le concept de négritude dans le discours intellectuel français. Créé par Aimé César, Senghor, lui, aurait préféré celui de négrité, il deviendra le mot de ralliement de l'école afro-antillaise autour de Césaire, Damas et Senghor. Sous l'influence de l'ethnologue allemand Frobenius, Senghor développera dans ce que l'homme noir apporte une théorie des aptitudes psychiques tout entière ramassée dans la célèbre formule un bien provocatrice, l'émotion est nègre, la raison est haleine. On a beaucoup glosé sur cette belle formule. La différence, constate Robert Joigny, un des plus grands spécialistes de Senghor poète, est d'abord esthétique. Pour la civilisation gréco-latine, l'art est imitation de la nature, mimesis, alors que pour l'Africain, l'art est connaissance et explication du monde. La différence réside ensuite dans la différence de fonctionnement de la pensée. D'un côté, le logos et son cortège de contraintes, de l'autre, sensibilité, rythme et mythe. Il appartient au poète de concilier ces options apparemment divergentes et de faire fructifier leur complémentarité dans le respect mutuel de l'une et de l'autre. Fondamentalement, la pratique poétique de Senghor procède d'une évidence. C'est que l'Afrique noire, loin d'être un continent anhistorique, peut se prévaloir d'une certaine primogéniture culturelle, d'où la revendication de la négritude. À une époque qui fut, avec l'exposition coloniale de 1931, l'apogée d'un système d'exploitation et en même temps le début de son déclin. Avec violence et paroxysme à ses débuts, où il lançait son cri de guerre hirsute, avec plus de sérénité dans son âge mûr, le poète Senghor s'est toujours réclamé de son africanité essentielle. Ne rien renier de ce qu'il y a d'humain lui paraît naturel, dans la mesure où l'Afrique qu'il évoque dans ses vers bercés de la respiration du tam-tam est la zone du monde où les civilisations, depuis longtemps, sont apparues et se sont métissées. Il y a une part africaine, éthiopique au sens étymologique du terme, dans la civilisation méditerranéenne qui a marqué la Grèce. De grands artistes européens se sont réclamés de l'Afrique, à l'image d'un Baudelaire, d'un Rimbaud, d'un Picasso, d'un Apollinaire. Le plein chant de l'Église catholique et la polyphonie sont d'origine africaine et cousines des Negro Spirituals que Senghor découvre lors d'un séjour à New York après la guerre. Animisme et rationalisme peuvent parfaitement coexister. La magie de la poésie, au sens premier des créations démiurgiques, peut en tout cas les valoriser simultanément à l'image d'une action politique qui chercherait à faire valoir par des compromis dynamiques des points de vue opposés. Autant de signes qui tentent à prouver que les civilisations, en dépit des différences qui peuvent sembler essentielles, tendent vers l'universel, qui n'est pas réductible à ce que l'on appelle aujourd'hui la globalisation ou la pensée unique, mais incarne une vision existentialiste de l'être humain, abstraction faite des variantes civilisationnelles. La négritude est d'abord vécue par Senghor comme un combat pour la reconnaissance de la culture africaine et de ses valeurs. Mais de plus en plus, elle deviendra pour lui une étape sur la voie d'un humanisme intégral, et de la civilisation de l'universel annoncée par Teilhard de Chardin pour le troisième millénaire. Ce philosophe Teilhard a opéré un tournant majeur dans la pensée de Senghor. Teilhard m'a rendu la foi tout en me permettant d'être un socialiste africain, un socialiste croyant. Senghor se révoltait masqué, aimait dire « Tel est ma regard bicéphale, gueule de lion et sourire de sage. » Il savait que l'avenir d'un peuple, d'un pays, d'un continent ne s'échafaude pas sur les barricades. De par sa nature, sa culture humaniste, sa foi chrétienne, il n'était pas un démolisseur. Senghor était un bâtisseur de ponts. À la fin, la négritude se confondait pour lui avec l'âme africaine, apparentée par de multiples liens à l'âme européenne, ce qui lui inspira la formule « l'Europe à qui nous sommes liés par le nombril ». La question se pose si le chantre de la négritude s'est mis en contradiction avec lui-même en choisissant la langue du colonisateur pour exprimer sa révolte, son amour de l'Afrique, son attachement à la terre sérère, sa fascination de la femme noire. L'Orphée noir s'en explique dans la postface d'Éthiopique. Je cite « Parce que nous sommes des métis culturels, nous nous exprimons en français, langue à vocation universelle. Le français, ce sont les grandes orques qui se prêtent à tous les teintes, à tous les affaires, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l'orage. Il est tour à tour, en même temps, flûte, hautbois, trompette, tam-tam et même canon. Et puis le français nous a fait don de ces mots abstraits, si rares dans nos langues maternelles, où les larmes se font pierres précieuses. C'est beau. » En 1955, sous le gouvernement d'Edgar Faure, Senghor devient secrétaire d'État à la présidence du Conseil. À la fin des années 50, la trajectoire politique de Senghor prend son envol en Afrique. Le 5 septembre 1960, il est élu président de la République du Sénégal et il sera réélu 4 fois et quittera librement ses fonctions le 31 décembre 1980. La vie politique de Senghor sera ponctué tour à tour de triomphes, de moments critiques, de drames. Le 30 mars 1966, Dakar devient la Mecque de la négritude lors du premier festival mondial des arts nègres. Cette année marquera le zénith de sa trajectoire politique, peut-être de sa vie. En 1971, l'université est en grève. Senghor réprimera durement l'affront des étudiants. Réplique sénégalaise de mai 68. Dans son discours de réception à l'Académie française, le jeudi 29 mars 1984, il se réclame de son prédécesseur, le duc de Lévis-Mirepoix, pour condamner le mouvement de révolte qui, à ses yeux, allait à l'encontre de l'histoire. Après sa démission volontaire, en décembre 1980, il lègue la présidence à Abdou Diouf, l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Désormais, il s'occupera de la vie culturelle et de son œuvre littéraire qu'il n'avait d'ailleurs jamais délaissée. Comme tout homme politique, Senghor s'est attiré des critiques et s'est fait des ennemis. Mais en rétrospective, son bilan est impressionnant. Son mérite principal, qui transcende sa carrière politique proprement dite, Abdou Diouf l'a cerné dans une de ses formules dont il a le secret. Senghor, dit-il, a œuvré essentiellement à la libération des peuples africains en mettant l'accent sur la culture qui rend l'homme, tout l'homme, à sa liberté, à sa propre humanité. Sur le plan sénégalais, il a su redresser la situation économique de son pays grâce notamment à son rayonnement international qui lui valut des aides techniques et financières exceptionnelles. À partir de 1973, il amorce le grand virage vers la démocratie en autorisant un multipartisme limité qui admet les tendances politiques du communisme, du socialisme et du libéralisme. En conformité avec ses propres convictions, Senghor a habilement résolu le problème épineux de la coexistence des religions dans un État laïque. Bien que catholique convaincu, Senghor ne recule pas devant l'idée d'un métissage des religions. Le culte des ancêtres, des gris-gris, la bonté de la Vierge Marie de Mahomet et du Marabout sont pour lui des pratiques culturelles à équidistance de la vie et de la mort. Le premier souci du poète président, c'était pourtant d'éduquer son peuple. L'éducation était pour lui la véritable clé du développement économique et social. Mais sa conception d'une éducation humaniste, fondée sur l'enseignement des langues anciennes et de la culture occidentale, n'était pas du goût de tout le monde, comme l'a remarqué son principal biographe, Tian. Voilà un pays, écrit-il, qui, à peine plus d'un siècle et demi auparavant, a vu ses grands-parents plier sous le joug des Occidentaux et qui maintenant se relève de l'humiliation en utilisant pour s'en sortir l'excellence de leur culture. Mais Senghor, lui, ne regardait pas vers le passé. Sa pensée était tendue vers l'avenir. « Ma tâche, écrit-il, ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. » Les futurs flamboyants n'ont pourtant pas empêché Senghor de poursuivre ses chantiers concrets. Dès le début de sa présidence, moyennant un pourcentage tout à fait exceptionnel du budget national affecté à l'éducation, il a entrepris une vaste œuvre d'alphabétisation avec l'objectif de scolariser avant l'an 2000 toutes les filles et tous les garçons. Lorsqu'il a quitté le pouvoir, la conscience tranquille, comme il disait, Senghor pouvait effectivement se targuer d'avoir fait du Sénégal le pays le plus avancé en matière d'éducation et le pays le plus avancé en matière de démocratie de ce qu'on appellera le quartier latin de l'Afrique. Au-delà des bilans, on peut décerner chez Senghor une véritable philosophie politique, essentiellement marquée par la primauté du spirituel sur l'économie et la politique. La culture, dit-il, la culture est l'alpha et l'oméga de la politique, non seulement son fondement, mais son but, une véritable révolution copernicienne. Lors du Festival mondial des arts nègres, en 1966, le poète président est porté au nu par André Malraux, Malraux en grande forme, qui dit « Pour la première fois dans l'histoire, un homme d'État prend dans ses mains périssables le destin d'un continent et proclame l'avènement de l'esprit. » Senghor, premier roi philosophe de l'histoire, l'éloge de Malraux était sans doute hyperbolique. Mais philosophe, Senghor l'est à plus d'un titre. Il récuse la politique comme simple exercice du pouvoir et la considère comme un devoir pour son peuple, une mission au service d'une idée. Justification supplémentaire, s'il en fallait, pour son élection à l'Académie des sciences morales et politiques. Il a quitté de son propre gré le pouvoir, chose rare en politique, chose rare en Europe, chose rare en Afrique. Enfin, il a toujours voulu inscrire son action dans la pérennité. Agir à l'encontre de l'histoire lui paraît l'erreur suprême en politique. Roi philosophe, mais roi philosophe de quel royaume? D'une Grèce noire, non encore existante? Transcendant toutes les catégories politiques, Senghor l'Africain, Senghor le socialiste, Senghor le catholique était avant tout un grand visionnaire. Et comme tout visionnaire, le roi Senghor avait un rêve, faire de Dakar l'Athènes de l'Afrique subsaharienne. Au commencement était le Verbe, Comment s'étonner dès lors que Senghor, l'homme fait parole, ait été l'architecte de la francophonie institutionnelle. Maurice Druon en retrace ainsi la genèse, et je le cite, à la fin de l'entretien historique qu'il eut avec le général de Gaulle, au cours duquel celui-ci exprima son accord à l'indépendance du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, avant de se retirer, dit « Et maintenant, ce qui importe, Monsieur le Président, c'est de penser à la manière dont vont être maintenus les liens de mon pays avec la France et sa culture. » Par cette parole, la première pierre de la francophonie était posée. Un peu plus tard, alors qu'il était déjà en train de donner des lois au Sénégal, des structures à son État, un enseignement à sa jeunesse, Senghor prononçait cette fois à l'adresse de toute l'Afrique cette autre parole « Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé un outil merveilleux, la langue française. » La deuxième pierre était ainsi posée. Et Senghor, le bâtisseur, passe au fondement de la construction. Faute de temps, je ne saurais faire l'historique de ce long chantier. Mais je ne puis m'empêcher de relever qu'en 1967, avec la complicité de Senghor et de Gaulle, l'Association internationale des parlementaires de langue française sera créée à Luxembourg. Permettez-moi de faire ici une brève parenthèse sur les liens qu'il y avait entre le président Senghor et mon pays. En octobre 1970, le président Senghor a été reçu en visite d'État au Grand-Duché de Luxembourg. Le programme culturel lui fit visiter Echternach, la plus ancienne ville du pays, premier centre culturel, avec son abbaye bénédictine fondée en 698, et Fiand, ville au bourg médiéval, associée au souvenir de Victor Hugo, qui y est passé comme touriste et qui a vécu comme réfugié politique après la Commune de Paris. Senghor s'est dit impressionné par les réussites du petit Grand-Duché, qui ne disposait que de peu de ressources, mais les exploitait au mieux. Il leur a proposé ce modèle de ténacité et de sérieux à ses compatriotes. Enfin, du moins, nous voulons le croire qu'il l'ait fait. En dehors de ses contacts officiels, Léopold Senghor avait beaucoup d'amis luxembourgeois, écrivains, peintres, poètes, dont notamment Anis Kölz, qui a traduit certaines de ses poésies en un allemand des plus remarquables. Une étape décisive de l'édifice s'achèvera le 17 février 1970 à Niamey, où se déroulera la première conférence intergouvernementale des États francophones en présence du Tunisien Bourguiba, du Nigérien Diori et d'André Malraux. Le 20 mars, la convention de Niamey institue l'Agence de coopération culturelle et technique. En 1986, François Mitterrand accueille à Versailles le premier sommet ou la première conférence des chefs d'État et des gouvernements des pays ayant en commun l'usage du français. Senghor y fera une apparition remarquée dans sa tenue d'académicien. Le 12 mai 1990, le premier agrégé noir de grammaire sera honoré par la création à Alexandrie de l'Université internationale de langue française Léopold Sédar Senghor. Au sommet de Hanoï en 1997, l'actuelle Organisation internationale de la francophonie s'est dotée d'une charte qui vient d'être actualisée en 2006 à Bucarest. L'OIF s'est affirmée sur la scène internationale depuis qu'elle est dirigée par des personnalités charismatiques de Boutros Ghali et maintenant d'Abdou Diouf, le fils spirituel de Senghor. Et puis, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, et puis, moins perceptible à première vue, mais d'autant plus convaincant, il y a Senghor l'Européen. On s'étonne de voir à quel point le président d'un État africain à peine sorti du colonialisme, pouvait avoir l'esprit européen, et de constater sa connaissance profonde de l'histoire de l'Europe et sa capacité de la condenser dans ses traits essentiels comme il l'a fait le 16 décembre 1969 dans son discours de réception à notre Académie comme successeur d'Adenauer. Lecteur passionné de Goethe, Senghor ne cache pas son embarras à l'idée de faire l'éloge du chancelier Adenauer, pour lequel il n'éprouve que peu d'affinité élective. Il exalte d'autant plus son admiration pour la culture allemande, pour ses poètes Novalis et Brantôme, plus tard Heine et Hölderlin, pour ses penseurs, pour ses philosophes. Ni la guerre, dit-il, ni la guerre, ni le France d'Alac, ni le camp de travail n'ont pu effacer cette image rêvée de l'Allemagne. Par contre, il partage, lui, l'Africain, largement la vision de l'Européen et de l'Europe d'Adenauer. D'Adenauer dont il dit, je crois à juste titre, qu'il était à mains égards plus européen qu'allemand. Adenauer avait deux rêves, qui étaient deux visions, la réunification allemande et l'intégration européenne. Pour lui, la réunification de l'Allemagne et l'intégration européenne étaient, comme il ne cessait de le souligner, les deux faces de la même médaille. Il ne pouvait pas s'imaginer, peut-être devrais-je dire, il ne voulait pas s'imaginer l'une sans l'autre. Il mettait l'entente franco-allemande au service de ce binôme. En De Gaulle, il avait trouvé le co-architecte, le complice inspiré de la réalisation de son double rêve. On ne peut évoquer les noms d'Adenauer et de De Gaulle sans évoquer celui de Churchill, du grand Churchill, comme disait le général, de Churchill qui fut membre de notre Académie. C'est lui qui, arrivé au sommet de son autorité morale et politique, déclarait, lors de la réunion des mouvements européens à La Haye en mai 1948, réunion qui vit émerger la création du Conseil de l'Europe, idée terriblement combattue par l'Union soviétique qui interdisait à ses alliés obligés d'y participer, à La Haye, Churchill disait, en 48, nous commençons aujourd'hui à l'Est ce qu'un jour nous allons terminer à l'Est. En accueillant le 1er mai 2004, en son sein les nations de l'Europe centrale et orientale, l'Union européenne a façonné les retrouvailles entre l'histoire et la géographie européenne qu'avait prédestiné Churchill. Le 1er mai, l'Union européenne, pour le dire avec mon ami et mon maître Jacques Delors, mettait fin au funeste décret de l'histoire qui voulait que l'Europe soit divisée en deux parties à tout jamais. Sans la volonté résolue d'Adenauer et de De Gaulle, auquel il faut bien ajouter Robert Schuman, sans l'entente franco-allemande, qui a été et qui doit rester le ferment continental, rien de durable n'eût été et ne sera possible en Europe. Que les générations actuelles s'en souviennent et que les générations à venir ne l'oublient pas, quitte à compléter l'entente franco-allemande par l'amitié de tous, sans laquelle la France et l'Allemagne, qui doivent rester unies sur l'essentiel, verront leur force unificatrice s'affaiblir. Que les générations actuelles et futures, que ceux qui dirigeront l'Europe et ses nations en 2040-2050, dont les parents et les grands-parents n'auront pas connu la guerre et ne pourront pas raconter la vie des tranchées à leurs enfants et à leurs petits-enfants, que les générations à venir ne perdent pas mémoire. Les causes qui si souvent avait plongé l'Europe dans le martyre continue d'exister. L'ardente obligation de l'Union européenne restera pour toujours d'être une constructrice de paix. L'Europe aujourd'hui hésite. Le désir de vouloir plus d'Europe le sentiment d'en avoir déjà trop divise les opinions pour pouvoir laisser derrière nous les hésitations du moment. Tournons-nous vers Senghor, qui, parlant de l'Europe, décrivait celle-ci comme une étape vers une civilisation de l'universel. En chemin vers sa quête, en chemin vers cette civilisation de l'universel, armons-nous de patience et de détermination, sans lesquelles les longues distances deviennent infranchissables et les grandes ambitions se rétrécissent. Europe, francophonie, négritude, civilisation de l'universel, en dépit des apparences, tout finit donc par se rejoindre dans la pensée singorienne ouverte aux quatre vents de l'esprit. Reste à savoir quelle sera la langue de cette civilisation de l'universel. Pour Singer, ce ne sera ni le français, ni l'anglais, ni l'arabe, ni le chinois, ni le peul, ni le bambara, ou plutôt n'importe laquelle, car en dépit de la tour de Babel, il y aura toujours une langue universelle dont Singer est un des grands maîtres, la poésie. La poésie, musique qui nous restitue et ressemble dans une vaste symphonie toutes les voix de l'Orphée noir et tous ses rôles si parfaitement maîtrisés. Le petit garçon de Joël est le président du Sénégal, le chantre de la négritude et l'académicien, l'Africain à l'âme européenne et le père de la francophonie, le protagoniste de la culture universelle et le troubadour noir, sorcier, connaisseur des choses très cachées. L'œuvre poétique de Singer suffirait pour qu'il prenne place en effet à côté d'Eros, intermédiaire entre les dieux et les hommes, mais elle n'est que le souffle qui magnifie et complète son action politique et civilisatrice, qui fait de Singer l'un des grands protagonistes de l'émancipation du continent africain et de son rapprochement avec l'Europe, le père spirituel de la francophonie et à travers elle, celui unanimement reconnu de la récente convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous commençons seulement à saisir toute l'envergure de l'œuvre de Singer, œuvre immense qui lui aura acquis définitivement le rang d'un mortel promu à l'immortalité. Évidence qui explique d'ailleurs que j'ai consacré mes propos à Singer et entièrement à Singer et rien qu'à Singer au lieu d'en consacrer quelques-uns à son indigne successeur. Vous me permettrez donc de m'adresser à lui et de m'adresser à lui confraternellement dans la langue de sa mère, Sadian Vakna Sedar. Quelle belle œuvre accomplie Sedar. Merci de votre attention.
Chers confrères, vous nous avez tous passionnés par cette admirable évocation de votre prédécesseur et nous vous en sommes très reconnaissants et nous n'oublierons pas cette séance.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance solennelle de l'installation de Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg et Premier président de l'Eurogroupe qui réunit les ministres des Finances des pays membres de la zone euro. Dans son discours de présentation du nouvel académicien, Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, a présenté le Premier ministre Jean-Claude Juncker comme luxembourgeois et européen. Dans sa réponse, Jean-Claude Juncker a prononcé, selon l'usage académique, l'éloge de son prédécesseur, l'ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor.